おかしいおかしい。
Bien au contraire, comme la saison avec Alain Roux à la présentation.
Bonsoir. Dans une interview exclusive à Radio Capi, Sigrid Anna Johnson, ambassadeur du Canada à Kinshasa, affirme qu'il n'est pas possible d'investir en RDC puisque le climat des affaires n'est pas propice. Comment analyser les propos de Madame l'ambassadeur du Canada et comment améliorer le climat des affaires en RDC? Trois invités participent à cet échange. Marco Bangouli, ancien ministre de l'économie, ancien ministre des finances, ancien directeur général des contributions et actuellement entrepreneur immobilier. Lui, il est en ligne. Bonsoir Marco Bangouli.
Bonsoir Marco.
Éric Monga, président du comité professionnel des miniers à la Fédération des entreprises du Congo, également en ligne. Bonsoir Éric.
Bonsoir.
Tatine Sungani, analyste socio-économique, lui est dans ce studio. Bonsoir Tati.
Bonsoir Alain.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Il n'est pas possible pour le moment d'investir en République démocratique du Congo. C'est du moins l'avis de l'ambassadeur du Canada en RDC. Madame Sigrid Anna Johnson affirme ne pas être prête à encourager les hommes d'affaires canadiens à investir au Congo-Kinshasa puisque le climat des affaires n'est pas propice. Elle a fait cette déclaration dans une interview exclusive accordée à Radio Capi. On écoute Madame Anna Johnson au micro de Jocelyne Moussaoupondé.
Comme représentant du Canada actuellement ici en RDC, je pense en ce qui concerne le climat des affaires, j'aurais la réticence d'encourager d'autres investisseurs canadiens de se lancer ici. Le gouvernement nous a donné des engagements pour améliorer le climat des affaires avec des engagements spécifiques et on va voir si il y a des résultats qui viennent avec les mots. On verra si nous serions prêts d'encourager d'autres investisseurs canadiens de venir ici.
Vous jugez le climat d'affaires du Congo pas très bon. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir pour être rassuré, pour encourager beaucoup plus les investisseurs canadiens à venir au Congo?
On aimerait voir les investisseurs qui ont des grands problèmes actuellement avec quelques partenaires, je parle de n'importe quel investisseur de n'importe quelle nationalité, d'être invité de retourner à la table par le partenaire pour essayer de trouver des compromis pour développer le pays.
Marco Bangouli, je rappelle que vous êtes ancien ministre de l'économie, ancien ministre des finances, ancien directeur général des contributions et actuellement entrepreneur immobilier. Comment analysez-vous les propos de Madame l'ambassadeur du Canada?
Merci de me donner l'occasion de m'exprimer. D'abord, je viens de suivre seulement à l'instant les déclarations de Madame l'ambassadeur. Je n'ai jamais entendu parler. J'ai lu quelques extraits dans la presse. Mais je ne l'avais pas suivi directement. La première observation, c'est que Madame l'ambassadeur, avec prudence, pense que les tracasseries que nous connaissons dans le climat des affaires actuellement en RDC ne sont pas de nature à, pour elle, d'inviter les investisseurs canadiens à venir dans notre pays. La première observation, comme je disais, vous savez, j'aime pas tout ce qui est excessif. Ce qui est excessif est inutile. C'est une affirmation dont elle porte la responsabilité, après observation, c'est une personnalité de haut rang, puisqu'elle représente son pays, que je respecte. Mais je pense que le problème que nous connaissons dans notre pays, dans le climat des affaires, c'est un problème généralisé dans tous les pays en voie de développement, et particulièrement en Afrique. Qu'est-ce qu'on entend par climat des affaires? Le climat des affaires, c'est un ensemble d'aspects qui font que l'investisseur qui arrive trouve ce qui répond à ses souhaits pour développer ses affaires. Vous avez d'abord la structure d'accueil. La structure d'accueil commence déjà à l'aéroport. Nous savons qu'on a du fracassé à l'aéroport. Mais vous avez dans tous les aéroports d'Afrique la même chose. Parce que ce sont des plus jeunes qui sont en train de se rechercher Et donc, ils n'ont pas une organisation parfaite comme dans le pays déjà très développé. Lequel pays très développé n'a plus de ressources à offrir aux investisseurs. Les ressources se trouvent aujourd'hui dans les pays jeunes. Et donc, l'investisseur qui vient dans les pays jeunes doit avoir à l'esprit qu'il ne trouverait pas les structures d'accueil qui pouvaient être celles qu'on trouve dans les pays développés. Vous avez, nous avons, le pays a mis en place justement pour faciliter les structures d'accueil, l'ANAPI, qui est l'agence de promotion pour les investissements. Vous avez la FEC, qui est la Fédération des entreprises. Ces structures ont été mises en place par l'État et par le privé, justement pour recevoir les investisseurs et leur donner les orientations qu'ils sont vraiment intéressés et éventuellement leur trouver des partenaires locaux parce qu'il est recommandé aux investisseurs qui arrivent de ne pas évoluer seuls compte tenu des difficultés locales que les pays jeunes connaissent.
Marco Bangoli.
Oui,
d'abord, une première chose, c'est vous demander si vous avez une radio à côté, de l'éteindre, parce que la qualité de son que nous captons ici de vous n'est pas très claire. Deuxièmement, en un mot, avant de redonner la parole aux autres invités, donc si je comprends, pour vous, les réticences de l'ambassadeur du Canada se justifient, brièvement.
Non, se justifient, mais je trouve ce propos trop excessif.
Voilà. Eric Munga, vous êtes président du comité professionnel des miniers à la Fédération des entreprises du Congo Katanga. Pour Marco Bangoli, les propos de l'ambassadeur sont un peu excessifs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Merci beaucoup pour la parole. J'espère que moi, vous me passerez comme il faut.
Voilà, exactement.
Voilà. Je ne sais pas dans quel contexte que peut-être l'ambassadeur s'est exprimé et pour quelle expérience. Et dire qu'il n'y a pas de fracasserie au Congo ou bien c'est trop excessif, je crois qu'il faudrait bien relativiser les choses, hein. Voir toutes les situations dans quelle partie du pays et ainsi de suite. Ce qu'il faut dire, c'est que, il y a une part de vérité, c'est qu'il y a quand même pas mal de fracasseries et inhérent peut-être à des personnes plutôt qu'à des lois. Et c'est là qu'il faut maintenant essayer de trouver qu'est-ce qu'il faudrait faire. Pourquoi? Nous avons des cas de juridiction, les termes, nous avons le code minier, le code de l'investissement, le code de forestier, nous avons beaucoup de lois qui sont très belles. Et leur application pose problème. Alors pourquoi ça pose problème? Et c'est là la grande chose de fracasserie. En plus, le fait de changer de texte à tout moment, pour des besoins ou de notre, pour justifier, personne, généralement, ce sont pour les intérêts privés que les gens essayer de changer les cadres juridiques afin de créer ces tracasseries. Dans l'œil d'un investisseur, c'est beaucoup de tracasseries. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les voies de solution? C'est parce qu'il y a des corporations. On a fait que il y a la CNAPEC, les Copenico, ainsi d'autres associations qui font, où on fait des blocs communs ou des syndicats pour essayer de diminuer ou de faire appliquer les lois que nous avons de la République. Donc, quelque part, si on fait appliquer correctement les lois qui sont de la République, on va diminuer ces tracasseries que nous sommes en train de créer aujourd'hui et on va sensiblement améliorer le climat des abords. On a parlé de l'ANAPI tout à l'heure. L'ANAPI, c'est un cadre. Imaginez-vous si on donne à l'ANAPI tous ses moyens. Un cadre de l'ANAPI qui se présente dans un guichet pour faire une société. Il ne la fait pas autant vite que si quelqu'un un avocat le fait. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas la force à l'ANAPI et on ne veut pas appliquer la loi. Et puis, lorsque je donne un exemple, je suis un Lubumbashi, je veux créer une société. Après que mes statuts soient notariés, je peux faire entre 2, 3 ou au grand maximum une semaine chez ma société. Mais si je fais ça, ce n'est pas une semaine que vous avez votre société. Vous en avez peut-être 2 ou 3 semaines et il y a beaucoup de tracasseries à ce sujet. Je suis d'accord. Donc, il y a des choses à redire. Il y a des gens qui sont scrupuleux de la loi ou qui se gèrent un peu. Et d'autres qui n'appliquent vraiment pas la loi. Et si on fait tellement que tout le monde applique la loi, je crois que là, quelque part, le climat d'affaires sera beaucoup plus assuré.
Tati Nsongani, analyste socio-économique, pour Marco Bangoli, les propos un peu excessifs, Eric Munga, c'est plutôt un problème de personnes que des lois. En fait, je voudrais dire ceci, que la gêne dans les rapports entre la RDC et le Canada, à mon avis, trouve son origine dans 2 points. Vous savez, la conclusion d'un programme triennal formel entre le FMI et la RDC a été un peu, on va dire, grippée par si vous voulez, l'aval que devait donner le club de Paris au FMI. Et comme vous savez, le club de Paris est constitué des pays qui détiennent plus de 60% de créances sur ce que nous devons aux bailleurs internationaux et le Canada. Fait partie donc de ces pays qui ont un peu traîné les pieds avant de donner en quelque sorte un aval. Deuxièmement, vous devez savoir qu'en réponse à cela, la RDC a, s'est penchée dans le cadre de la révisitation des contrats miniers, s'est penchée sur le cas de Tenke Fungurume Mining, qui, comme vous le savez, est détenu par des capitaux canadiens. Et lorsque l'ambassadrice parle des contrats, en fait, elle fait allusion à cela. Donc, on l'a bien compris pour ceux qui connaissent le dossier. Elle a fait allusion à cela. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces déclarations sont peut-être crédibles, mais en tant que diplomate, elle a un peu manqué de tact, parce que un diplomate ne doit pas dire certaines vérités de façon crue. C'est vrai que il y a beaucoup de tracasseries, il y a des pots de vin qui se donnent sous la table. Souvenez-vous de ce ministre qui disait à quelques investisseurs qu'est-ce que je gagne dans cette affaire. Pour avoir le moindre document dans une commune, à l'hôtel de ville, il faut donner quelque chose. Mais je voudrais vous dire ceci. Lorsqu'un investisseur vient quelque part pour mettre son argent, il observe 5 éléments. 1. L'environnement macroéconomique. En RDC, l'environnement macroéconomique, c'est 4 agrégats. Premièrement, l'emploi. Vous savez que chez nous, le chômage est à 95%. Deuxièmement, l'inflation. À l'origine, 11% de taux budgétaire, nous sommes aujourd'hui en train de frôler les 70%. Le produit intérieur brut, qui avait été au niveau du budget arrêté à 12%, il est en net recul au deuxième et au troisième trimestre. Il est en train de reprendre à 2,4% au lieu de 12%. Le taux de change est en plein dégringolade. À l'origine, le taux budgétaire pour l'exercice 2009 avait été arrêté à 585 francs congolais pour un dollar, mais nous sommes au-delà de 900. Deuxième élément, l'environnement social. L'environnement social en RDC est marqué par une extrême pauvreté. Ce matin, vous avez observé la difficulté de transport simplement parce que on demande aux véhicules de payer leur assurance. C'est pas normal. Et vous observez avec moi que l'environnement est explosif. Il y a des arriérés de salaire. Il n'y a pas de soins de santé. Troisièmement, l'environnement judiciaire. Je vous fais grâce de vous décrire dans quel état se trouve notre appareil judiciaire. Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. C'est celui qui a l'argent qui gagne les procès. Quatrièmement, environnement administratif. Écoutez, dans tous les services de l'État, il y a des tracasseries. Vous n'êtes pas en mesure d'avoir le moindre document sans glisser quelque chose. La corruption commence déjà à l'aéroport. Il y a pléthore dans les services. Il y a une pression fiscale énorme. Comment pouvez-vous imaginer que pour un produit importé d'Europe ou d'ailleurs, vous devez payer 50% des droits? Cinquièmement, l'environnement politique, enfin cinquièmement, l'environnement politique est marqué par une instabilité politique dans quelques îlots en RDC, c'est le cas notamment à l'Est et à l'Équateur, mais aussi par l'insécurité. Donc vous voyez, tous ces éléments font que, effectivement, quand un investisseur vient chez nous et qu'il observe ces éléments, eh bien, il a quelques craintes. Donc il convient à ce que nos pouvoirs publics puissent améliorer tout cela.
Donc le climat des affaires en RDC est sombre.
À mon avis, le climat des affaires en RDC n'est pas propice aux investissements. Je pense que l'ambassadeur a raison, mais elle l'a dit de façon un peu crue, à mon avis.
Marco Bangouli, j'ai devant, sous mes yeux, là, le classement Doing Business 2010. La RDC occupe la 182e place. Si on compare à quelques pays voisins, nous avons le Burundi, 176e, l'Angola, 169e, la Zambie, 90e, mais le Rwanda est 67e. C'est parmi les pays africains qui ont le plus progressé dans l'amélioration du climat des affaires. Alors qu'en RDC, par exemple, il faut jusqu'en 2007, 155 jours pour créer une entreprise, plus de 13 procédures à suivre.
Bien, merci, je suis vous et deux autres intervenants. Lorsque j'ai abordé la question, toujours en état d'introduction, je n'ai pas voulu déjà analyser tout le problème dans l'introduction du débat. J'apprécie les interventions que les uns et les autres ont faites. Ils sont rentrés déjà dans la profondeur de la question sur les tracasseries et le climat des affaires de notre pays. Mais la question que vous m'avez posée au départ, c'était de donner notre point de vue.
aujourd'hui sur la déclaration de Madame l'ambassadeur du Canada. Et je reviens encore, je disais que c'était excessif. Excessif parce que j'ai bien apprécié le deuxième intervenant, qui disait d'ailleurs le diplomate doit avoir un beaucoup plus de tact pour s'exprimer. Si on doit suivre Madame l'ambassadeur, qui le conseille aux investisseurs canadiens de venir au notre pays, eh bien, il y aurait, sur ce conseil-là, aucun investisseur qui viendrait dans aucun d'autres pays pour venir vous-même de l'initier. Maintenant, il n'y a aucun des pays que vous avez cité en dehors, peut-être le Rwanda, je prends le cas de l'Angola, qui n'est pas très loin dans le placement par rapport au Congo que nous sommes, en RDC. Mais lorsque vous voulez, moi je me rends en tant qu'homme d'affaires, puisque maintenant depuis 3 ans, je suis en dehors de la politique, je reviens aux affaires, j'ai toujours été dans les affaires, eh bien, de l'Afrique du Sud ou de l'Europe, pour avoir une place dans l'avion, aller à Luanda, en Angola, il faut attendre peut-être 6 semaines. Les avions sont pleins. Et pourtant, il y a les fracassés. À l'aéroport de Luanda, je vous dis, il faut y aller, c'est pire que ce qui se C'est-à-dire, comme je vous disais, nous sommes des pays jeunes. Nous ne nions pas que le climat des affaires doit s'améliorer. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons sollicité notre adhésion à l'OADA. L'OADA qui est là qui forme sur les droits des sociétés commerciales pour l'Afrique. Nous sommes en procédure d'adhésion. Et il y a des choses qu'on fait que nous n'avons pas encore adhéré parce que justement notre climat n'est pas tout à fait assaini. Marco Bangoli ne nie pas que nous avons des problèmes dans le climat des affaires. Aujourd'hui, je suis en train de construire un immeuble de gîte d'appartement au bord du fleuve ici à la Gombe. J'ai obtenu le code des investissements. Je vous dis les tracasseries que j'ai pu dévoiler de conteneurs. Il y a des tracasseries. Nous reconnaissons. Mais je dis que c'est excessif de dire ne venez pas les investisseurs. Non. Tous les pays d'Afrique se trouvent dans ces conditions-là. Et les conditions de rentabilité des investissements sont beaucoup meilleures ici que dans les pays développés où on a atteint le plein emploi. Et donc, cela ça va s'améliorer. Nous faisons des efforts. J'ai apprécié un des intervenants qui a dit le cadre juridique est là. C'est vrai, on a consulté le cadre juridique. Aujourd'hui, avec les 5 chantiers, on est en train d'améliorer l'état des routes. Parce que les routes sont aussi partie de l'électricité bactérie. Parce que l'électricité et l'eau font partie de l'électricité bactérie. On n'y est pas encore. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut empêcher et décourager les investisseurs de venir. Non. Ils vont venir, et nous les Congolais, les personnes, leur précise, ce qu'on a dit, ce ne sont pas les structures, les structures existent, mais les personnes doivent s'améliorer, et nous devons faire cet effort ensemble. Il ne suffit pas de critiquer. Moi, je suis, en plus de l'homme politique que j'ai dit, comme je l'ai dit, je suis un homme d'affaires. Un homme d'affaires est un homme pragmatique. Devant un problème, on cherche des solutions. Dire aux investisseurs de ne pas venir parce que le climat des affaires n'est pas fini, eh bien, je trouve ça négatif. Ce n'est pas cela qui fera avancer les choses. Parce que aucun pays de l'Afrique, et particulièrement central, et je prends le cas de l'Angola, qui connaît aujourd'hui un taux de croissance qui dépasse le 9%, qui a un budget qui dépasse de 50 milliards de dollars. Mais qui font cela? Ce sont les investisseurs étrangers? Est-ce qu'ils se sont découragés parce qu'il y a des tracasseries? Non. Donc, c'est excessif.
Merci Marco Bangoli. Eric Munga, il y a Okitapoy depuis Paris en France hein, qui dit c'est la corruption qui est à la base du mauvais climat des affaires en RDC. Moi qui vous écris, dans le cadre de l'apport des Congolais de l'étranger, j'ai construit un pousseur pour permettre l'évacuation des produits agricoles, mais les tracasseries me poussent à tout laisser tomber.
Voilà, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, des tracasseries. Quelles sont les origines des tracasseries? Qui peut lutter contre les tracasseries pour permettre à faire évoluer les affaires? D'abord, pourquoi le monsieur a construit un pousseur? C'est parce que, quelque part, il a vu qu'il y avait une opportunité d'affaires, et en griffant son affaire sur un besoin de la population sociale ou commerciale ou n'importe lequel, il allait se retrouver son compte de pension propre. Là, je rejoins un peu ce que le précédent intervenant a dit tout à l'heure, non, nous sommes dans les affaires. Peut-être que le troisième n'est pas dans les affaires, mais nous sommes dans les affaires. Lorsque nous voulons investir, nous ne regardons pas quel est l'emploi, quel est le PIB d'un pays. Nous regardons quelle est d'abord notre rentabilité. Est-ce que notre projet est très rentable dans de telles conditions? Et par après, nous allons commencer à nous battre contre les agrégats macroéconomiques défavorables. Moi, je ne vais pas regarder l'emploi. Par contre, si j'investis et qu'on me donne un bon cadre comme je vais à la NAPI, je dis que je suis une création d'emplois parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois et on me donne des avantages fiscaux à ce sujet, quitte à les appliquer. C'est le problème. Pourquoi on ne les applique pas? Je regarde si mon taux en termes de rentabilité est bon. Lorsqu'il y a un taux de croissance qui commence à être positif, donc ça veut dire que le pays a des bonnes affaires, j'y vais. Et quand il y a du PIB qui a reculé, c'est parti de quoi? D'une hausse. Et la hausse, elle était là quand les agrégats macroéconomiques étaient bons, c'était l'environnement macroéconomique mondial, enfin, l'économie mondiale a changé. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais le problème, le plus grand problème, c'est quelle est la source des tracasseries que nous tous nous décrions et comment éradiquer cette source de tracasserie et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il a parlé, on a dit qu'il fallait faire 165 jours pour faire une entreprise. Peut-être, c'est vrai, mais écoutez, qui a 165 jours? Qui est responsable de cela? Et si on commence à réfléchir de cette manière et à commencer à traquer toutes les personnes qui font un bus à ça, nous croyons que les comportements, le climat va beaucoup s'améliorer. Nous avons parlé de voilà la corruption. S'il y a corruption, et que vous voulez, donc il y a un corrupteur et un corrompu, et que vous êtes obligé de donner quelque chose pour que votre affaire marche. Je veux dire, c'est pour ça peut-être qu'il y a ça. Mais si vous dites non, et que vous allez maintenant dans les instances pour essayer un peu de rentrer le droit, certes, vos affaires vont péricliter, ça j'en suis sûr, mais au moins, à quelque part, les gens vont commencer à avoir peur de vous. Je vais vous donner un exemple, par exemple, c'est terminé. Avant de sortir, au niveau de la province de Katanga, pour sortir un camion, mettons le pays, entre un point X jusqu'à la frontière, je prends la frontière de Kasumbani, il fallait au départ 52 signatures et au moins 27 papiers. Et après 8, beaucoup de bagarres pour l'instant, nous tendons vers 10 papiers, on vient en avoir 4, et au moins 20 signatures. Vous voyez qu'en 2 ans ou 3 ans, on continue à améliorer. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est avoir l'audace de dénoncer qui est en train de faire quoi. Le premier jour, ça va pas écouter. Le deuxième jour, on nous rejoint. Le troisième jour, ils auront peur de vous. Ils vont dire, bon, celui-là, c'est un fou. Il faut le laisser passer. Et on va arrêter là-bas. Et là, vous n'êtes pas fou. Là, vous êtes quelqu'un de réfléchi.
Eric Monga.
Oui, nous avons de bonnes lois. Il faut les faire appliquer.
Donc, si je vous comprends, c'est parmi les causes qui ternissent le climat des affaires en RDC, vous citez l'impunité.
Non seulement l'impunité, et aussi beaucoup plus enfin, l'opérateur connu, c'est normal, il veut gagner le plus de possible, il faut faire tout ça. Mais le problème, c'est que c'est dès au cri de la sirène pour faire vite. Et il ne faut pas résister. Il faut résister et ça va aller. Il y a moyen d'améliorer par nous-mêmes d'abord, en utilisant les lois que nous avons. Par nous-mêmes, nous ne devons pas commencer à dire, nous ne devons pas attendre une manne quelque part ou quelqu'un qui va venir quelque part pour améliorer pour nous. Nous avons tout, on vous a cité la NAPI. Nous avons des dirigeants qui veulent bien améliorer. Mais les autres qui abîment le climat des affaires, ils ont aussi peur quelque part. Parce que le jour qu'on les dénonce, le jour qu'il y a un procès, eh bien, évidemment, nous aussi on a peur parce que nous vivons de nos affaires et que si on est conflictuel, parfois nos affaires ne vont pas marcher, c'est là que nous péchons aussi. Mais le problème, nous nous mettons ensemble. Merci. On se met dans une association et on lutte contre ça, on lutte contre cette corruption, on lutte contre ces mauvais citoyens qui nous font ça et nous allons y arriver. Je vais parler de l'exemple de ce terminé qui est en train de faire des efforts pour lutter contre ça.
Merci.
Je vais vous donner un exemple.
Très rapidement,
Oui, dans le secteur minier, on a fait une bagarre de 2 ans à ce processus pour le remettre dans le guichet unique. On a fait diplomatiquement, gentiment, nous nous sommes expliqués de l'ancien ministre de l'économie, malgré que le service de CC soit un service sous sa tutelle, il nous a donné raison à la fin. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il faut améliorer le climat des affaires. Nous nous sommes battus pendant 2 ans et nous avons eu des causes. Pourquoi tout le monde ne peut pas faire ça?
Mais
on ne peut pas se plaindre. Voyons le positif.
Merci Eric Monga. L'amélioration des conditions du climat des affaires, c'est la deuxième partie de cette émission que nous allons aborder dans très peu de temps. Tatin Sungani, j'ai parlé tantôt du Doing Business hein, 2010. Je vous cite juste quelques lignes là. Les entrepreneurs, ça c'est au Rwanda, peuvent maintenant créer une entreprise en deux procédures et en trois jours.
Oui, mais il existe des pays où on peut créer une entreprise en 30 minutes sur Internet sans voir qui que ce soit. Ce que je voudrais dire ici aussi, c'est que il faut pas non plus trop dramatiser la situation. Lorsque vous observez le volume d'investissement il y a 5 ans ou 10 ans en arrière, vous allez vous rendre compte que le volume d'investissement RDC a pratiquement explosé. Donc c'est vrai qu'il y a plus d'investissements qu'aujourd'hui qu'hier, mais c'est vrai également que nous avons du chemin à faire. Mais les pouvoirs publics se sont engagés à assainir l'environnement, notamment la lutte contre la corruption, l'instauration d'une justice distributive, la lutte contre les tracasseries administratives, la lutte contre l'impunité. Donc c'est vrai qu'il y a des pays qui font des efforts. Mais vous savez, nous sommes un pays post-conflit. Bien que je sois d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure qui disait qu'il y a, il y a des comportements décourageants. Lorsque vous demandez à ceux qui vont dédouaner les marchandises à Matadi, mais ils vont vous décrire le parcours, le calvaire qu'ils subissent là-bas à Matadi. Il y a plus de 30 services, alors qu'il y a un décret présidentiel qui limite à 4 les services intervenant aux frontières. Donc il y a la responsabilité de l'État, c'est vrai. Mais on a dit ici qu'il y a des facteurs décourageants. Mais l'État, que fait l'État? Parce que les obstacles, n'est-ce pas, à l'assainissement du climat des affaires sont là, ils sont identifiés, on les connaît, mais on ne fait rien. Donc je crois que la responsabilité de l'État est mise à nu. Mais cela dit, il faut quand même reconnaître qu'il y a certaines améliorations qui ont été faites, notamment dans la douane. Il faut reconnaître que le circuit de dédouanement est plus rapide aujourd'hui qu'hier, parce que avant, quand on allait à Matadi, on faisait 2 semaines, 1 mois. Mais c'est plus rapide aujourd'hui. Mais là encore, il y a des choses qu'il convient de faire. Il y a la responsabilité du gouvernement. Je mets l'accent sur 2 choses. La lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption. Ce sont des gangrènes qui empêche à notre pays de devenir un pays attractif, alors que pourtant, par ailleurs, notre pays recèle de nombreux atouts en matière d'investissement.
Deux réactions des auditeurs, Tatin Sungani, Robert Baomé de Bukavu, au Sud Kivu. Les propos de l'ambassadeur sont fondés. Comment investir dans un pays où la sécurité et la paix sont encore fragiles et précaires? Et comment investir aussi là où il n'y a pas d'assouplissement des mesures administratives et fiscales? Josie Bakari de Kinshasa. Le climat des affaires n'est pas propice en RDC parce qu'il n'y a pas encore une justice impartiale et à cause de la corruption qui gangrène les autorités de notre pays.
Ouais, je pense que l'état d'esprit de ces intervenants résume ce que nous venons d'ici. C'est-à-dire que l'État doit faire comme priorité de priorité la lutte contre la corruption. Parce que la corruption renvoie une mauvaise image de notre pays vis-à-vis de l'extérieur. Et vous voyez, lorsque pour avoir un document, un simple document administratif, vous voyez des sujets expatriés sortis de l'argent. Mais quelle est la considération que ces expatriés auront vis-à-vis de nous? Et quand vous posez la question au préposé administratif, il vous dira que c'est comme ça que ça se fait. Ça fait 3-4 mois que je ne suis pas payé. Donc c'est pour ça que je mets à l'index la responsabilité du gouvernement. Mais il n'y a pas que le gouvernement, mais il y a aussi nous-mêmes les Congolais. Parce que, en fait, quelqu'un a dit que la corruption est un état d'esprit. Mais nous avons un état d'esprit de corrompu. Et ici, tout à l'heure, un interlocuteur a dit, s'il y a corruption, c'est qu'il y a un corrompu et un corrupteur. Et lorsque les sujets expatriés viennent corrompre, c'est qu'ils ont trouvé cet environnement. Mais ils sont tout aussi responsables de l'aggravation de cette corruption. Mais l'État, le gouvernement, doit prendre des lois, des mesures, doit légiférer pour, à défaut de tuer cette gangrène, mais au moins la ramener à des proportions acceptables. Vous n'allez pas croire que aux États-Unis, en France, la corruption n'existe pas. Elle existe, mais elle est à des proportions faibles. Donc nous devons lutter, nous devons en faire une politique économique, une politique du gouvernement. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Mais j'ai l'impression qu'on s'est habitué à ce mot corruption. Ça devient notre quotidien.
Marco Bangouli a deux autres auditeurs, hein, assistant Germain Kabanda de Lubumbashi au Katanga, qui dit « Les propos de Madame l'ambassadeur sont tout à fait objectifs car l'environnement politique n'inspire pas confiance à première vue et fait de la RDC un pays à haut risque. Les détournements des deniers publics ici et là sont monnaie courante, corruption dans la magistrature, contrat Léonin et autres. » Moussa Rouvogou de Boutembo, Nord Kivu, notre pays se trouve actuellement dans une situation qui laisse à désirer. Plusieurs milices encore actives à l'Est manquent d'armées républicaines capables de défendre l'intégrité territoriale et protéger les biens des citoyens, corruption grandissante au sein des institutions de l'État.
Je ne nie pas le propos de Madame l'ambassadeur. Je dis tout simplement, l'intérêt du débat aujourd'hui, c'est que les propos de Madame l'ambassadeur du Canada nous donnent l'occasion de parler du climat des affaires de notre pays. Ça aurait été dit par un national, un Congolais, que ces propos n'auraient pas porté. Heureusement, c'était dit par un diplomate de haut rang. C'est ça l'intérêt. Mais l'intérêt, ce n'est pas seulement de critiquer. L'intérêt pour nous, Congolais, maintenant, au cours de ce débat, c'est, nous reconnaissons la vérité, c'est que le climat des affaires mérite d'être assaini, il y a beaucoup de problèmes, mais que faire? Et là, c'est que nous, je retiens au cours de ce qui a été dit déjà dans ce débat, et c'est vers le futur que nous devons nous retourner. Nous avons un grave problème qui n'est pas un problème de structure, c'est un problème mental, c'est-à-dire les personnes. Et le gouvernement doit faire ses efforts, l'effort de transformer ces personnes chargées d'animer ces structures, pour améliorer le climat des affaires. Nous avons par exemple le problème de la fiscalité. Nous avons une question de fiscalité pour améliorer les finances, etc. Évidemment, le problème est très simple. Mais notre fiscalité doit devenir aussi une fiscalité de développement et non seulement une fiscalité de répression. Et pour l'animation de cette fiscalité, nous devons avoir des personnes, on a parlé de la corruption ici, la corruption, comme on l'a déjà dit au terme du célibat, il y a toujours des partis, il y a un corrompu, un corrupteur. Eh bien, il faudrait qu'on arrive justement dans les mesures à prendre pour que les individus animateurs puissent atteindre les objectifs. Donc il faut que l'individu ne règne plus. Donc le problème que nous avons, nous ne nions pas que le climat des affaires n'est pas propice. Mais nous refusons l'excessif. Dire qu'à cause de ça, il ne faut pas que les investisseurs viennent, je dis alors aucun investisseur n'irait dans aucun pays d'Afrique.
Marco Bangouli, puisque vous abordez déjà les solutions en rapport avec l'amélioration du climat des affaires, vous avez parlé de la personne qu'il faut transformer en combattant l'impunité, d'établir une fiscalité de développement. Donnez quelques détails, qu'est-ce que vous entendez par là?
Une fiscalité de développement est une fiscalité qui, à la fois, vise la mobilisation accrue de recettes de l'État, parce que les recettes de l'État sont constituées essentiellement par le prélèvement de l'impôt sur la production nationale des entreprises d'État et des entreprises privées. Donc, il faut un impôt. Sans impôt, l'État ne pourrait pas mobiliser les recettes pour son budget. Mais à la fois, cette fiscalité doit aussi viser le développement de ces entreprises, et non seulement la répression sur leurs revenus. Et c'est là les points dont on parle en jargon de fiscalité, on dit qu'il faut l'élargissement de la taille fiscale pour arriver à baisser le taux. Aujourd'hui, nous avons un prélèvement qui tourne autour de 20% sur le revenu national, sur le PIB. 20% du PIB, c'est ça qu'on appelle l'impôt, justement, l'impôt d'une manière généralisée. Mais lorsque nous allons l'appliquer sur les entreprises, nous allons à 40-50%. C'est beaucoup trop. Une telle fiscalité ne permet pas le développement. Il faut baisser le taux, trop d'impôts sur l'impôt. Il faut baisser le taux, élargir la caisse, de manière à favoriser le développement de ces entreprises. C'est un exemple de plus. Si simple pour comprendre, c'est que c'est une fiscalité de développement. Une fiscalité de développement, c'est un état d'esprit dans la fiscalité pour accompagner l'investisseur. Et c'est ainsi qu'on conçoit, par exemple, au niveau du code des investissements, on accorde des facilités. Des facilités, c'est pour développer l'entreprise. Ça fait partie de l'arsenal de la fiscalité de développement.
Merci.
Merci Marco Bangoli, permettez-moi de vous arrêter à ce niveau. Eric Monga, pour vous, dans l'amélioration, vous disiez déjà que les lois sont bonnes, mais il faut les appliquer. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait aussi également améliorer quelque chose du côté de l'arsenal juridique?
Certes, il faudrait améliorer dans beaucoup de domaines, et l'arsenal juridique, et non seulement l'arsenal juridique, dans le côté texte, mais ceux qui interprètent le texte, ceux qui doivent appliquer le droit, et aussi ceux qui sont chargés de faire appliquer les instructions qui viennent des cours des tribunaux. Mais je voudrais rentrer un peu sur ce que le président intervenant a dit, sur
Marco Bangoli.
Oui, tout à fait. Et c'est là qu'il faut voir. Et c'est là que notre système de taxation d'impôts et de notre pression fiscale est trop forte pour les entreprises et pour et qui abîme parfois même le climat des entreprises. Et si on regarde peut-être dans la fiscalité pure, les gens vont défendre avec des génies, mais pour dire, voilà, c'est léger. Mais l'État, le mécanisme de récolte d'argent de l'État passe par la fiscalité, par la fiscalité et autres redevances, tout ce qui si on met le tout ensemble, c'est impossible parfois pour que des gens puissent gagner de l'argent, et ça mène beaucoup de tracasseries. À cela, les textes parallèles, les textes inférieurs qui viennent abolir les textes supérieurs, et ainsi de suite. Et lorsqu'on va dans des organes de recours, encore, il faudrait y arriver, et c'est là qu'on crée encore de toutes ces gens de l'insécurité. Et par-dessus, du côté du législateur, du côté du politique, du côté du décideur, il faut qu'il y ait des décisions. Disons court terme, moyen terme, long terme. Malheureusement, l'État n'est pas, l'État ne doit pas gagner à court terme. Il ne faut pas dire, voilà, les entreprises gagnent beaucoup, alors il faut augmenter le tel taxe, tel taxe, il faut que l'État se retrouve. Mais non. Peut-être que l'État fait ça, on laisse un peu libre champ à quelques entreprises pour que, à moyen terme ou à long terme, l'État puisse se retrouver. Quelle est la visée de l'État? C'est le bien-être de la population. L'État n'est pas concurrent des entreprises. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons l'impression, dès qu'une entreprise commence à faire un peu de recettes, c'est tout de suite une panoplie de services étatiques qui arrivent et qui créent justement cette insécurité sociale et qui abîment le climat d'affaires. Mais si nous avons une vision long terme, moyen terme, il faut dire, écoutez, il n'est qu'encore au début, allégeant, et après 2 ou 3 ans, lorsque l'entreprise va commencer à porter, nous allons prendre le dividende. C'est ce qui se passe dans les cas du secteur minier, dans les cas du PME, dans les cas de beaucoup de secteurs. Mais une entreprise minière qui est à la recherche, je lui ai demandé de commencer à payer des gros impôts. Et c'est rien que la recherche. Attendez que cette entreprise arrive quand même à la production. Vous êtes une toute petite entreprise. Je donne un exemple. Je cite facile, il y a quelques années, on avait à l'époque exonéré un secteur, le secteur de transport. Et quand on a exonéré le secteur du transport, tout de suite là, surtout ceux qui sont du côté des impôts et des donnes, voilà, l'État va perdre. Mais non, l'État a investi dans le secteur du transport, mais à long terme. Et lorsqu'on exonère les véhicules de transport, vous allez voir directement le problème du transport sera résolu pour la population, il y aura création d'emplois, il y aura un calme social qui va s'impliquer, et à terme, les impôts vont revenir à l'État, et l'État va gagner. Mais pourquoi nous avons toujours des visions court terme? Parce que quand quelque part veut gagner gros, et ce sont les individus, c'est pour ça que je dénonce souvent les individus qui sont derrière ces lois, qui prennent ces lois à leur avantage.
Merci Eric Monga. Patine Sungani, deux autres auditeurs, Maître Juvenal Mounoubo de Goma en Nord-Kivu. Pour améliorer le climat des affaires en RDC, il faut offrir des garanties de sécurité aux investisseurs et lutter contre la corruption et la concussion dans les services fiscaux et douaniers. Par ailleurs, je trouve, les propos de Madame l'ambassadeur peu explicites et moins diplomatiques. Kashindi Kambi Emmanuel, depuis Québec au Canada, pour redorer son image ternie à l'échelle internationale, les autorités congolaises ont en tout premier lieu intérêt à rétablir la sécurité sur toute l'étendue de la RDC, condition incontournable et sine qua non d'attraction des investisseurs internationaux.
Oui, en ce qui me concerne, au début de mon propos, j'ai dit que lorsqu'un investisseur arrive, il observe 5 choses. Les 5 environnements que j'ai décrits. Je voudrais rebondir sur ce qu'ont dit mes interlocuteurs tout à l'heure. C'est vrai, trop d'impôts tuent l'impôt, c'est exact. Mais lorsqu'on observe aujourd'hui, qui sont les grands bénéficiaires de la fraude fiscale à grande échelle? mais ce sont les opérateurs économiques. Malheureusement, l'État frappe de façon aveugle. L'État augmente de façon disproportionnée les taxes, les droits et redevances pour lui permettre de récupérer ce qu'il ne peut pas récupérer en mettant sur pied une politique de lutte contre la fraude efficace. Donc, je crois que là aussi, il faut absolument relativiser. Je voudrais dire que c'est vrai, nous avons des bonnes lois qui sont mal appliquées. Il y a des lois nécessaires, mais qui ne sont pas votées. Il y a une justice qui est inopérante, qui est une justice, comme je dis, des plus forts. Il y a une pression fiscale énorme, mais il y a aussi des entreprises qui fraudent. Mais je voudrais vous donner un petit exemple. Lorsque l'État octroie des exonérations à certaines entreprises, mais vous verrez qu'il y a des matériels comme des limousines qui n'ont rien à voir avec le coût des investissements. Donc il faudrait aussi que les opérateurs économiques puissent aussi faire le ménage dans leur propre sérail. Quant à l'État, moi j'ai déjà mis à l'index ici la responsabilité de l'État. Mais quand vous allez ailleurs, mais la pression fiscale, elle est énorme. Mais les entreprises en Europe croulent sous le poids de l'impôt, y compris les particuliers. Je ne l'apprends à personne. Mais sauf que là-bas, l'argent qui rentre dans les finances publiques sont bien gérés. Aujourd'hui, vous avez des secteurs où l'État a carrément démissionné, comme l'enseignement, alors qu'il s'agit des secteurs qui normalement devaient faire l'objet d'une prise en charge par l'État. Vous avez la santé, vous avez les transports, les logements sociaux, tout cela l'État a démissionné. Donc il y a la responsabilité de l'État d'un côté, dans ce que je peux appeler la lutte contre les clichés qui font que notre pays, aujourd'hui, n'a pas bonne presse sur le plan international. Même les Congolais de la diaspora hésitent à venir investir dans leur propre pays. Je vais aller même plus loin. Les Congolais qui se trouvent à l'intérieur du pays, mais ils croulent aussi sous le poids des tracasseries que lorsque vous regardez même dans les rues, les taxibus, mais à chaque coin de rue, ils doivent laisser un petit bakchiche au roulage. Mais en plus de cela, ils doivent payer la vignette à la DGRK, ils doivent payer l'assurance à la SONAS. Mais comment voulez-vous que les affaires marchent dans un pays comme celui-là? Donc je me dis, pour terminer, parce que je sens que le temps nous est imparti, c'est vrai, il y a la responsabilité de chacun de nous, parce que la corruption doit être combattue par chacun des Congolais. Mais il y a la responsabilité de l'État. L'État doit mettre en place des mécanismes efficaces, je dis bien efficaces, de lutte contre la corruption. Et en dernier lieu, l'État doit choisir des personnes capables d'instaurer dans ce pays, finalement, une politique de bonne gouvernance.
Merci à Tatine Songani, c'est aussi déjà votre conclusion. Marco Bangouli, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'amélioration, en plus de ce que vous avez déjà dit, du climat des affaires en RDC?
Je poursuis dans la même lancée que l'intervenant qui vient de terminer. Pour un, situer la responsabilité de l'État, et je pense que sur ce plan-là, combien le gouvernement déploie des efforts pour contribuer à cette amélioration du climat des affaires. L'intervenant a évoqué par exemple le problème de la fraude douanière. Depuis la mise en place du guichet unique et tous les services qui ont accompagné les guichets uniques, que ce soit le BIVAS, que ce soit le CCC aujourd'hui ou l'OFF, ils sont en train justement de mettre en place des structures pour combattre la fraude. On ne peut pas dire aujourd'hui, en 2009, que la fraude douanière est de l'ampleur qu'on avait en 2004 ou 2005. Donc il y a des efforts qui sont faits.
Merci.
Comme je termine par dire, il y a la responsabilité du gouvernement, c'est vrai, mais il y a aussi nous, les opérateurs économiques, qui devons comprendre et participer à cet effort pour contribuer à l'amélioration des affaires.
Merci Marco Bangouli. Eric Monga, en 20 secondes, votre conclusion également.
Oui, très bien, il y a deux points qui sont quelques que je dois évoquer. D'abord, la responsabilité de l'État, surtout en province. Il y a beaucoup d'équipes qui viennent de Kinshasa, qui déstabilisent les provinces sous des fausses, avec des faux textes, et ça, je crois que l'État a une très grosse part de responsabilité. C'est un problème très crucial, on n'a pas le temps, je vais l'entrer. Mais il y a aussi les obligations citoyennes. Ce n'est pas payant une vignette ou en payant une assurance, que nous avons une forte pression. Je crois qu'il faut qu'on conscience les citoyens, qu'on paye ce qu'on doit payer, mais qu'on dise à l'État de faire aussi son travail.
Merci Eric Monga, dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Guy Maté a réalisé cette émission, Kevin Couté l'a préparée, Sylvain Bauer et la mise en onde, et Martin Sebouzangwe l'a coordonnée. Au revoir et à demain.